Bien, chers auditeurs, bonsoir, Olivier Tournafond. Suite en quelque sorte de l'émission d'hier, mais qui était consacrée à la position des droites européennes face à l'impérialisme de Trump, nous allons aujourd'hui poursuivre nos débats, mais sur un autre thème. Nous avons le plaisir de recevoir le professeur Bernard Bozzami, qui est déjà intervenu dans cette émission il y a quelques mois pour parler du nouvel obscurantisme. Je rappelle à nos auditeurs qu'il a publié un ouvrage dont le titre est un petit peu singulier puisqu'il est tiré du dernier vers de Baudelaire du poème L'Horloge, meurt vieux lâche, il est trop tard. Alors c'est pas très gai d'ailleurs comme titre, c'est un peu pessimiste. C'est publié à la Société d'études et de conseils mathématiques. Bernard Bozzami était professeur à l'école polytechnique, un mathématicien de très haut niveau, et son ouvrage porte sur l'émergence de ce qu'il appelle lui-même le nouvel obscurantisme, c'est-à-dire une période où on perd de vue finalement la logique et le principe de réalité pour partir dans des délires. Et il y a eu plusieurs épisodes dans l'histoire humaine de ce type, et c'est vrai que bien souvent, on a l'impression à examiner les positions de nos contemporains, soit qu'ils sont, ces gens-là, relèvent d'un asile d'aliénés, ou alors que c'est plus globalement une sorte d'ombre qui s'étend sur la Terre et qui éteint les lumières progressivement, avec en particulier, alors je sais que professeur Bozzami n'aime pas beaucoup qu'on ressasse les questions climatiques, et on va être obligé d'y revenir. Il y a quand même un projet de loi, je ne sais pas s'il a abouti, mais je ne crois pas, qui visait à criminaliser tout propos climato-sceptique fait en public, à l'instar de la loi Guesso, qui, comme chacun sait, qui instare les propos révisionnistes ou dits négationnistes. On n'a pas eu de loi comparable en ce qui concerne le Covid, mais beaucoup le voulaient aussi. Il y avait des projets en ce sens, et puis le Covid a disparu miraculeusement avec l'invasion de l'Ukraine, ce qui a fait dire à certains que il faudrait décerner le prix Nobel de médecine à M. Poutine, parce qu'en une semaine, il a fait disparaître le coronavirus. Et le professeur Bozzami va nous parler, dans un premier temps, du regretté collègue, le professeur Dehevels, qu'il a bien connu, qui était directeur d'émission sur Radio Courtoisie, et qui a été extrêmement apprécié des auditeurs. Et donc, dans cette émission, j'ai le plaisir aussi de recevoir Son Altesse Royale, le prince de Bourbon-Parme, qui est mon suppléant. C'est un prince suppléant, c'est beau.
Mais bon, bonsoir, je suis content de vous retrouver.
Alors moi, je ne sais pas si je suis co-prince comme à Andorre. Du moins, si je ne le suis, je suis digne de l'être. Et le prince va nous apporter son éclairage, lui aussi, sur ce qu'il considère comme être des manifestations de ce nouvel obscurantisme. Et Bérénice Tournafond, que vous connaissez tous aussi, va prendre le relais de Marc de Staël pour lire les questions des auditeurs. Alors, je vois que quelqu'un est en nom. Non, je vois notre technicienne qui fait des gestes derrière la vitre. Alors, donc je rappelle que ce livre, Meurt, vieux lâche, il est trop tard, Bernard Bozzami, professeur à l'école pédétechnique, au modeste prix de 25 euros, se fait édité par la Société d'études et de conseils mathématiques. Chers collègues, est-ce que vous avez vendu beaucoup d'ouvrages?
À la suite de l'émission précédente, aucun, c'est très simple. La lâcheté est quelque chose de très répandu, y compris chez les auditeurs de Radio Courtoisie.
C'était pas forcément de la lâcheté.
Vous pouvez en parler tant que vous voulez, ça ne modifiera en rien les chiffres de vente. Ceci dit, je vous remercie quand même.
Est-ce que c'était la lâcheté ou l'avarice?
Non, c'est la lâcheté. Les gens sont très contents de tourner le bouton et d'entendre quelque chose à la radio, mais ils ne donneraient pas un copec ou un penny.
Non,
pour appuyer leurs idées, c'est comme ça.
Vous savez, on n'achète pas tous les livres dont on entend la propagande. Hein.
Je sais bien, parce que là, c'est même pas la peine d'en parler.
Oui, par exemple, quand on a fait venir ici François Gervais, qui a été publié un ouvrage remarquable que vous connaissez certainement, Il n'y a pas d'apocalypse climatique. Je ne suis pas persuadé que les gens se soient rués non plus pour acheter son livre.
Non, il y a un mot de Lavater que cite Baudelaire dans Les Paradis Artificiels, ouais, qui dit « Dieu préserve ceux qu'il chérit des lectures inutiles ». Donc ça s'applique aussi bien au livre de François Gervais qu'au mien, Et par conséquent, ça permet de ne rien acheter du tout.
Voilà. Et déjà des économies.
C'est très
voilà
beau.
Qui me rassure. Alors... Dieu préserve ceux qu'il chérit des lectures inutiles. C'est cité par Baudelaire au début des Paradis artificiels.
Alors, il y a un autre ouvrage dont il faut faire la promotion également.
C'est avec le même succès.
On verra, on va voir combien on va en vendre. C'est l'ouvrage du prince de Bourbon-Parme, Manifeste pour la France, Le Pacte, édité par Un pour tous. Alors, qu'est-ce que c'est, Un pour tous ?
Alors, non, c'est pas ça du
c'est
tout.
C'est pas Un pour tous, non ?
J'avais amené ça pour vous en faire cadeau et pas du tout pour vous en parler.
Mais non, mais je croyais qu'il fallait le vendre parce qu'il coûte. Celui-là ne coûte que 7 euros.
Oui, voilà.
Donc, il est 3 fois moins cher, 4 fois moins cher que celui du professeur.
Ça ne déclenchera pas 7 fois plus de ventes, c'est indépendant du prix. À partir du moment où les gens ont décidé de ne rien débourser, que ça soit 1 euro ou 100.
Oui, c'est vrai.
Moi, je leur ai dit, par exemple, il y a un livre qui n'est pas cher du tout et que vous devriez tous lire, c'est le traité sur la tolérance de Voltaire, qui est vendu en librairie 2 euros. Oui. Personne ne l'achète. Ils devraient bien l'acheter et le lire, le traité sur la tolérance.
Surtout de nos jours.
Surtout de nos jours, oui.
Mais on peut même le trouver.
Je l'ai même offert à un certain nombre de gens qui dialoguaient sur Internet sur des sujets absurdes. Et ils ont continué, ils ont accepté le livre et ils ont continué à dialoguer sur Internet avec le même degré d'absurdité.
Ouais,
donc j'ai perdu 2 euros plus les frais de port.
Ouais,
et ça n'a servi absolument à rien.
Qui était probablement supérieur à l'ouvrage.
Bien entendu, oui.
Ouais.
Alors, nous devons... On pourrait peut-être d'ailleurs faire un pacte au compris. Si vous achetez le livre de Bernard Bozami, le livre du prince est offert avec.
Hein,
merci beaucoup, professeur, pour cette promotion.
Comme il est moins cher,
je n'en demandais pas tant.
Non, mais comme on part du principe que personne ne va rien acheter, ça fait. Alors, bon, écoutez, on va parler de Paul de Hevels. Alors, j'ai regardé un petit peu, c'était un très, très éminent mathématicien français, universitaire, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, donc Paris 6. Il était ancien élève de l'école normale, il a fait une thèse, bien entendu, en mathématiques. Il a ensuite été le plus jeune agrégé de France. Il a fait toutes sortes de travaux reconnus. Et il était surtout statisticien.
Il était uniquement statisticien, il n'y a pas de mal à ça.
Oui, non, mais je n'ai pas dit ça. Mais il s'est intéressé à beaucoup de sujets polémiques, en particulier... ce qui touchait au prétendu réchauffement climatique, enfin au réchauffement climatique, on va dire, parce qu'il existe réellement, oui. Par contre, ce qui est prétendu, c'est l'effet de l'homme. Il a été d'ailleurs, je crois, membre de l'association des climato-réalistes.
À ma connaissance, il ne s'est pas abaissé jusque-là.
Pourquoi abaissé ? Il y a Jean Tranial là-dedans.
Oui,
écoutez, il y a Rémi Prud'homme.
Bon, il est temps que je prenne la parole.
Bon, alors allez-y, parlez-nous de lui, parce que
ça va diverger pendant
alors
les 2 heures.
Allez-y. D'ailleurs, c'est pas 2 heures, c'est 1h30 déjà.
À l'origine, j'ai connu le père de Hevels, qui s'appelait René de Hevels, et qui était professeur de je ne sais plus quoi à l'école polytechnique quand j'étais élève. Donc je l'ai eu comme prof. Ensuite, quand je suis devenu assistant de Laurent Schwartz, j'ai sympathisé avec René de Hevels, et qui m'a dit un jour, tu devrais aller voir mon fils. Et j'ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit, il fait des statistiques. Alors j'ai dit, quelle horreur, je ne vais pas aller voir un statisticien. Mais peu à peu, d'abord, parce que moi je faisais des maths pures, j'étais élève de Schwartz. J'ai jamais été prof à Polytechnique, j'étais assistant à Polytechnique, et après prof à Lyon 1.
Ah bon, d'accord.
Bon, peu importe, c'est pas, il n'y a pas de disgrâce, ni dans ni dans un autre, c'est juste pour rectifier. Ensuite, j'ai rencontré De Hevels à plusieurs reprises. Disons qu'à l'époque où j'ai créé une entreprise, en 1995, j'ai fait connaissance de De Hevels parce qu'il avait des contacts industriels assez nombreux. C'est normal pour un statisticien et ça ne l'était pas pour un mathématicien de maths pure. Donc il m'a introduit un peu à la discipline de manière générale. Et on a sympathisé parce que, disons pour toujours dire les choses simplement et grossièrement, c'est quelqu'un qui aimait bien la rigueur scientifique. C'était ça qu'il aimait avant tout. Et les statistiques, c'est probablement l'une des branches des mathématiques qui ont le plus à faire avec la société civile. Donc, il était en prise en permanence avec des sottises qui lui étaient imposées à droite, à gauche, et il réagissait comme il pouvait. Et en particulier sur les questions liées au climat, il est intervenu 3, 4, 5 fois dans des conférences que nous avons organisées. Et l'avant-dernière que nous avons organisée avec lui a recueilli 130 000 vues, dont 125 000 insultes de toute nature, qui étaient particulièrement abusantes, mais ça ne le dérangeait pas du tout, et moi non plus. Donc quand on faisait un exposé sur ces sujets-là, il fallait s'attendre à être combattu par une majorité de gens.
Mais c'est bien connu que tant qu'on dérange, on existe.
Oui, c'est ça, oui.
Oui.
Et il en a pris son parti. Alors, je vais parler... Je ne connais pas du tout l'aspect des travaux scientifiques de Deves, parce que je ne suis pas moi-même statisticien, je suis probabiliste, je m'excuse. Mais Deves s'est connu pour la chose suivante, pour laquelle il faut absolument lui rendre hommage. Ça a été un défenseur acharné de l'école statistique en France. Il s'est battu pour créer un laboratoire au sein de l'Université Paris 6. Il s'est fait élire à l'Académie des sciences pour pouvoir défendre ce laboratoire et il l'a défendu bec et ongles contre toutes les attaques des universitaires et des non-universitaires. Il a réussi à maintenir une école de statistique de bon niveau. Je pense pouvoir dire que c'est lui le créateur de l'école statistique en France. Et il faut lui rendre hommage avec ça parce que il me racontait ça quand on déjeunait ensemble assez souvent. Il était en butte à toutes sortes d'attaques de toutes sortes de personnes. En mathématiques, en sciences en général, il y a des chapelles. Alors les gens se détestent entre ceux qui sont partisans des coefficients positifs et ceux qui sont partisans des coefficients négatifs, ceux qui font de la psychologie et ceux qui n'en font pas, etc. etc. Enfin, comme dit un proverbe tibétain, autant de moines, autant de religions. Donc ils se détestent et ils se bagarrent. Et bien entendu, les statisticiens qui étaient supposés être particulièrement riches parce qu'ils avaient des contrats avec Total et avec d'autres, ils étaient en butte aux attaques de tous les autres universitaires qui voulaient récupérer leurs sous. Moi-même, à un moment, je me rappelle ça, quand on a créé l'entreprise, on avait un contrat avec une société qui s'appelait à l'époque Digital Equipment, qui était un grand de l'informatique, et il nous avait offert une station de travail. À l'époque, ça coûtait une fortune, une station de travail, et il disait, débrouillez-vous avec cette station de travail, faites-la travailler pour que... on puisse faire des choses qui vont utiliser nos logiciels ensuite. Donc, on avait utilisé la station de travail. Et à l'époque, on avait été domicilié comme de Heuvels dans les locaux de Paris 7. Paris 6, c'était pareil, c'était Jussieu. La Halle aux Vins, ça s'appelait à l'époque. Et la seule but de la Halle aux Vins de Jussieu et Paris 7, Paris 6, c'était qu'on foute le camp et qu'on laisse la station de travail. Laissez-la et partez. Voilà. Donc, on est parti, mais on est parti avec la station de travail parce que on a commencé à gagner un peu d'argent et donc on a pu louer nos propres locaux. Et Deves a été en permanence en butte aux attaques de ses collègues et il m'en parlait en permanence. C'est-à-dire que moi, j'ai créé une entreprise, donc je suis indépendant de l'université, mais lui, il était à l'intérieur de l'université. Et il parvenait à se défendre à cause de ses titres académiques. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais un grand respect avec lui, pour lui, parce que cette défense n'était jamais gagnée d'avance. Il cherchait sans arrêt à lui piquer ses postes, ses locaux, etc., etc. C'est vraiment désagréable comme ambiance. Il n'y a jamais eu chez les scientifiques en France, on en parlera tout à l'heure, c'est le propre de l'obscurantisme, il n'y a jamais eu en France de consensus pour essayer de défendre une discipline globalement en disant on va s'appuyer sur, je ne sais pas moi, les physiciens, les fabricants d'automobiles, etc., etc., pour faire prospérer une sorte d'approche un peu rationnelle. Non, ils préfèrent, plutôt que d'essayer de faire établir le gâteau et de le faire prospérer, ils préfèrent le scinder en tout petits morceaux et chacun va récupérer un morceau des autres. Ce qui fait que le morceau finit par s'amenuiser dans des proportions telles qu'il n'en reste rien, pas même des miettes.
Est-ce que cette tendance... Pardon.
C'est amusant parce que ça n'a absolument rien à voir, mais je prends le même exemple du gâteau avec nos politiciens.
Oui, bien sûr. Vrai. Avec le socialisme,
qui quand ils sont à la tête d'un État, si l'État était un gros gâteau, eh bien, ils vont essayer d'en manger chacun un petit morceau, mais du coup, il ne reste plus rien du gâteau, contrairement à d'autres pays où on essaie de préserver le gâteau pour le transmettre.
Je crois que votre comparaison est très juste. C'est le même sujet avec une homothétie, avec un changement d'échelle, mais c'est la même idée. Ils sont incapables de s'entendre sur quoi que ce soit, ils vont se bagarrer. Comme on le voit à l'heure actuelle avec les agriculteurs.
Et manger le gâteau et tuer la poule aux œufs d'or.
Ouais, exactement. Mmh.
Oui, mais de toute façon, tuer la poule aux œufs d'or, ça c'est une spécialité française et socialiste. Parce que le socialisme adore tuer la poule aux œufs d'or. Ah, écoutez, regardez ce qui est arrivé au Venezuela. Bon, c'est un pays très riche autrefois. Le socialisme est arrivé avant Maduro, c'était quoi?
La sottise française n'est pas politique. Elle est dans nos gènes.
Vous croyez?
Oui. J'en suis sûr. Oui.
Mais est-ce que vous pensez que ça a toujours été, comme vous le décrivez? Ou est-ce que c'est typique de notre époque?
Il y a eu des époques dans lesquelles il y avait un monarque éclairé qui arrivait à, en quelque sorte, fédérer les possibilités, Louis XIV, etc. mais c'est parce qu'il y avait un monarque éclairé qui avait envie que quelque chose se développe.
Et ça, il fonctionne.
Napoléon Ier, quand oui, il a été en Égypte avec un certain nombre de scientifiques.
Mais le premier d'entre eux qui a été élu, Clovis était oui. élu roi, et il décide que ce sera son fils qui sera son successeur, justement pour éviter le problème des partis et unifier le pays. Donc ça fait un moment qu'on a, certains ont compris ça.
Ouais, ça présente des avantages et des inconvénients. Si le fils est idiot, ça peut se retourner contre le principe.
Il y a eu des présidents idiots aussi.
Je sais bien, oui.
L'élection nationale.
Le principe selon lequel le fils doit hériter n'est pas sain absolument.
Il est compréhensible parce que c'est comme une entreprise. C'est l'idée du droit de propriété. On considère qu'il y a une valeur patrimoniale et que la couronne appartient à une famille qui a créé, qui est l'auteur du pays. Qu'il a créé comme un chef d'entreprise crée le pays. Après, il y a bien sûr les salariés, ça c'est le peuple, et puis il y a les actionnaires, c'est l'aristocratie, et puis il y a les clients. Alors là, les clients aussi, ça fait partie aussi, je dirais, du peuple. C'est une entreprise, d'ailleurs, c'est pourquoi beaucoup de libertariens américains, aujourd'hui, souhaitent que, progressivement, le pouvoir, aux États-Unis notamment, devienne une véritable entreprise privée. Monseigneur, je vous ai fait parvenir un article là-dessus,
passionnant.
Qui s'intitulait Est-ce que les États-Unis vont devenir une monarchie ? Parce qu'il y a beaucoup de milliardaires comme Elon Musk, mais il y a aussi Mark Zuckerberg, qui estiment que la démocratie, c'est un système totalement absurde, où tout le monde s'efforce de vivre au détriment des autres, et que ce qui crée la richesse, c'est l'entreprise. Et qu'il vaut mieux que l'État fonctionne comme une entreprise, parce qu'au moins, les gens investissent leur argent, leurs compétences, leurs talents, et ils sont responsables de ce qui arrive. Alors que, dans la démocratie, c'est toujours l'autre, c'est toujours la faute des autres. Hein. Vous savez, c'est ce que dit le professeur Hope, il dit la monarchie, c'est une petite entreprise familiale, la démocratie, c'est une copropriété où chacun s'efforce de vivre au détriment des autres.
Je dirais ça autrement. Je dirais que
on s'éloigne, mais c'est intéressant quand même.
Mais je dirais que quand il y a un monarque et que les choses vont mal, tout le monde pointe le doigt le monarque et il est le seul responsable. Dans une république, on pointe de doigt peut-être le président ou le chef d'État, mais il va dire je suis pas responsable.
Oui, c'est vous qui l'avez voulu. C'est la théorie de la volonté générale qui est une idiotie complète.
Dans le livre, j'explique précisément que si on est dans une mauvaise situation, c'est la volonté du peuple. Ça n'est pas que nos dirigeants soient idiots, c'est un fait, mais ils ont été élus.
Oui, c'est tout à fait juste. Oui.
Et par contre, c'est la volonté, en quelque sorte, de l'électorat.
Elle dit, je l'ai dit l'autre jour à un étudiant. Je lui ai dit, voyez, il faudrait, c'est un étudiant tout à fait bien, parce que c'est un ami de mon fils, et il est un type très intelligent. Je lui dis, voyez, Flavio, il s'appelle Flavio, il est venu d'ailleurs à Radio Courtoisie, le problème, c'est qu'il faudrait de bons bergers. Il me dit, ouais, mais des bons bergers, c'est pas suffisant quand il y a de mauvais moutons. Et ça, c'est très juste. C'est très juste. La théorie du mauvais mouton, c'est quand le... Ben, vous le dites vous-même. Vous le dites vous-même, ça va dans le même sens. Quand l'électeur lui-même ne veut pas le bien collectif, et quand il est animé de sentiments mauvais, vils et bas... C'est extrêmement difficile de faire fonctionner l'État. C'est vous-même qui le dites.
Le point de vue que je défends depuis que j'ai créé cette entreprise, ça fait plus de 30 ans, c'est qu'il ne faut pas se soucier du développement de l'État, ni d'essayer de convaincre un certain nombre d'imbéciles qui pourraient être moins imbéciles. Ça ne sert à rien. Oui. La position qu'il faut prendre, c'est celle que Max Planck et Werner Heisenberg défendaient en 1933 lors de la montée du nazisme. Oui. Il faut créer ce qu'ils appelaient des îlots de stabilité. C'est-à-dire des petites zones dans lesquelles on pourrait, c'était de la physique théorique, dans lesquelles on pourra travailler tranquille en attendant que les conditions normales reviennent. Ce qui n'est pas forcément rapide. J'ai expliqué déjà que la précédente période d'obscurantisme, c'était entre Aristarque de Samos et Copernic, elle avait duré 1800 ans. Comme celle-ci dure depuis 40 ans, on a encore 1760 ans à tenir. C'est simple, il ne faut pas être pressé.
Oui, mais
il ne faut pas vouloir convaincre l'État ou les autres États.
Y a quelque chose
ça ne sert à rien.
Il y a quelque chose que vous dites dans l'ouvrage.
Ils n'achèteront même pas mon bouquin.
Alors, vous mettez sous les yeux des gens un graphique qui montre, noir sur blanc, l'absurdité d'une thèse officielle. Eh bien, les gens ne veulent pas le voir.
Ils
pourquoi
veulent pas le voir. Oui.
Alors, mais il faudrait faire venir un psychanalyste à cette table, parce qu'il faudrait comprendre pourquoi les gens ne veulent pas le voir.
Mais ça a été dit par Gustave Le Bon en 1905, dans un livre très connu, qui s'appelle Psychologie des foules.
Des foules, oui, c'est très
Il explique que les foules ne sont sensibles qu'à des arguments d'autorité. Donc elles ne raisonnent pas, vous ne pouvez pas les convaincre par des graphiques, et vous ne pouvez pas convaincre les foules d'un graphique qui monte est mauvais au moyen d'un graphique qui descend. Elles s'en foutent, excusez mon langage. Donc dans ces conditions, la seule chose à faire est de les laisser tranquilles avec leur graphique qui monte et de créer quelque chose à côté auquel les foules n'auront pas accès. En l'occurrence, la contre-foule qu'on peut créer à l'heure actuelle est facile à définir. Le pays est en train de s'effondrer économiquement. Donc vous dites aux gens, messieurs, bah écoutez, vous êtes très gentils, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, mais le pays est en train de s'effondrer et par conséquent, d'ici peu, vous n'aurez plus d'emploi, vos enfants n'auront plus d'emploi, vos parents n'auront pas de retraite, etc., etc. Et là, ils vont réagir. Ils ne vont pas changer d'avis sur le climat, ils ne vont pas changer d'avis sur la décarbonation, ils ne vont pas changer d'avis sur quelque chose d'autre, mais ils vont prendre leur fourche ou leur tracteur et ils vont se révolter.
C'est ce qu'on a vu tout à l'heure à Fontainebleau, il y a des, ça y est, nos amis, les paysans sont revenus avec leur tracteur.
Ah oui.
Ils demandent d'ailleurs la démission de Mme von der Leyen. Voilà. Je ne sais pas si ça a un effet.
Ça n'a rien à voir avec la décarbonation,
non,
et les paysans se moquent éperdument de la quantité de CO2 émise par les automobiles, mais ils constatent qu'ils sont en train d'être ruinés, c'est tout. Donc ça n'a pas de sens d'avoir une approche rationnelle.
Alors, je suis d'accord avec vous pour ce qu'il s'agit des foules.
Gustave Le Bon, 1905, Psychologie des foules.
Oui, mais quand vous prenez non plus des foules cette fois-ci, mais vous prenez des individus et vous leur montrez le graphique. Quand il s'agit d'un individu, on n'est plus en face d'une collectivité qui est soumise à des forces inconscientes et absurdes. Mais là, nous avons un individu. J'ai observé, et Bérénice l'a observé aussi, et vous aussi, Monseigneur, que des individus à qui on démontre, de manière absolument implacable, l'absurdité d'une thèse, refusent de l'admettre, parce que ça crée un trouble intérieur. Ça crée un trouble et une sensation de porte-à-faux. Quand quelqu'un s'est construit autour d'idées fausses, et a fait toute sa vie, c'était le syndrome des communistes.
Mais ça s'appelle l'instinct grégaire, ça.
Oui, non, mais pas forcément, parce que les gens, ils ont lutté toute leur vie pour le climat, pour le communisme, pour l'égalité, pour la négation de la différence sexuée. Et arrivé à un certain âge, vous leur dites, bah, tout ça, ça valait rien. C'est insupportable, parce que vous touchez ce que les psychologues appellent le moi périphérique. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est ce que vous disiez à propos des chapelles, je l'ai observé, parce que mes étudiants, qui sont jeunes encore, croient naïvement qu'il n'y a de conflit que quand il y a des questions de religion, de sexe, de pouvoir ou d'intérêt. Et je leur ai dit, détrompez-vous, pendant la période de Covid, on a vu des gens s'étriper littéralement pour des questions médicales qui les auraient laissés parfaitement indifférents de 2 ou 3 ans avant. Et regardez les controverses entre notre collègue Raoult, Perron, qu'on a reçu ici d'ailleurs, Madame Karine Lacombe, ou encore Delfrécy, j'allais dire Defrécy, bon, un peu la même chose. Et la violence des débats, regardez la fureur qui s'est déchaînée contre Louis Pasteur. Regardez les controverses, on était prêt à brûler les gens vifs pour des questions de controverses théologiques ou scientifiques. Et encore en droit, alors vous donnez l'exemple des statisticiens et qui cherchent à, vous donniez ces exemples. Mais regardez en droit, je vous dis que sur des thèmes comme la théorie de la cause, des vices du consentement, ou encore la garantie des vices cachés, pourtant la garantie des vices cachés, c'est pas quelque chose qui vous empêche de dormir, hein, Monseigneur, ni mon cher collègue non plus. La garantie des vices cachés, vous en fichez royalement. Eh bien, les gens sont prêts à se battre depuis 50 ans, depuis plus que 50 ans, 70 ans, sur l'histoire du périmètre de la garantie des vices cachés dans le droit de la vente. Depuis 1950, il y a des clans qui ne s'adressent pas la parole, où on est prêt à s'en découdre presque physiquement. Ça montre bien, c'est la théorie que je développe, du moi périphérique. Votre moi, c'est votre moi physique, c'est ce que vous aimez, votre vie quotidienne, vos amis, votre famille, votre femme, vos enfants, vos étudiants, et puis votre chapelle, et ça s'élargit, vos véhicules de collection, hein, par exemple, le moi périphérique, ça touche les véhicules de collection, ce que vous avez écrit, et si on porte atteinte, c'est une agression. Combien de fois nous avons entendu des gens à qui nous prêchions, ma femme et moi, la bonne parole sur le plan soit politique, soit sur le plan scientifique, en disant mais vous calmez-vous, l'apocalypse climatique n'est pas pour demain, je prends un exemple comme ça. La démocratie, c'est pas formidable, la monarchie, c'était pas si mal. Et combien de fois on a vu cette réaction des gens se prendre la tête dans les mains et dire « Arrêtez, arrêtez, là vous nous faites mal, là vous allez nous déprimer ». Et puis alors moi je vais vous donner un exemple. Un jour...
C'est une des choses les plus difficiles que vous demandez aux gens. C'est qu'à partir du moment où ils croient en quelque chose et qu'ils le prônent année après année et que tout d'un coup ils réalisent qu'ils se sont trompés, mais c'est extrêmement difficile pour eux de l'accepter. Et peu le font d'ailleurs.
Exactement. Alors j'ai un étudiant un jour, dans les licences professionnelles que je dirigeais à Fontainebleau, qui s'appelait monsieur, je ne sais plus comment, j'ai oublié son nom, bon, de Gandhi, voilà, monsieur de Gandhi. Alors, je parle de choses comme ça, un peu controversées, vous voyez, je suis un peu provocateur, et je le vois s'écrouler sur sa table, la tête dans les mains. Je lui dis, mais monsieur de Gandhi, qu'est-ce qui vous arrive là? Vous ne vous sentez pas bien? Vous voulez que j'aille appeler l'infirmerie? Il dit, non. Ça nous fout les boules, ce que vous racontez là. Non mais si, c'est important. Il faut connaître... Il faut qu'on fasse venir un psychanalyste ici, dans ce studio. Alors,
faites-le sans moi.
Non mais attendez, à chacun son métier. Mais vous savez, vous n'êtes pas toujours obligé de venir.
Libre,
hein.
Vous êtes libre.
C'est le libre journal. C'est
pour toi, dis, pourvu que ça ne soit pas moi.
Mais non, mais peu importe. Mais on va dans votre sens, en plus. Bon, alors, est-ce qu'on peut reparler un peu
c'est
de...
C'est ça qui m'inquiète.
Bah, écoutez, on a le droit d'être d'accord avec vous, quand même. Et pas toujours
aussi
de...
Aussi peu que possible.
Bah pourquoi? Vous avez un peu d'un tempérament contrariant, vous le reconnaîtrez. Bon. Parlez-nous de Devels. Alors, il y a eu des controverses. Je vois qu'il y a eu une très... Alors, il est spécialiste de la théorie des valeurs extrêmes. Il a été l'un des pionniers dans l'étude des lois extrêmes multivariées. J'avoue que pour moi, c'est du chinois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Sans doute que vous pourriez nous expliquer ça très bien. Mais j'ai vu aussi... qu'il y avait eu alors une grande controverse, bien avant les histoires de climat, très grande controverse, à partir de 2012, parce qu'il a pris le parti, si l'on peut dire, d'un autre scientifique, qui s'appelait Gilles-Éric Séralini, sur la question des OGM. Et ça a provoqué un tumulte considérable dans la communauté scientifique. Est-ce que de quoi s'agissait-il? Vous avez...
C'est les sujets qui reviennent périodiquement dans la société civile. C'est-à-dire que les gens ont décidé qu'ils auraient peur de quelque chose. Ça peut être peur de l'effondrement d'un glacier, ça peut être peur d'une substance chimique quelle qu'elle soit. En l'occurrence, c'était des OGM, il y avait des peurs. Ça traverse l'opinion publique, comme ça, puis ça disparaît. Et à l'époque, Devels, avec juste raison, avait dit « il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire, il n'y a pas de données ». Qui justifie cette peur, circuler, il n'y a rien à voir, mais aussitôt tout le monde lui était tombé dessus, voilà. Et ça s'est reproduit des tas de fois sur bien d'autres sujets. Nous-mêmes, nous en avons vécu plein sur des tas de données expérimentales liées à l'alimentation. On a eu récemment un contrat sur un truc qui apparaît quand on fait brûler de la luzerne, etc.
Vous avez bien raconté cette histoire. Oui,
les gens avaient décidé que c'était très mauvais pour la santé. Et nous, on avait fait observer que les chèvres en bouffaient naturellement et que par conséquent, si on veut répondre à cette inquiétude, il suffisait de mettre des chèvres dans un enclos, de leur donner les feuilles qui allaient avec et de faire observer les chèvres par un huissier pour constater que les chèvres se portaient à merveille.
Mais qu'est-ce que c'était
la
luzerne ?
Il n'y avait pas de raison d'avoir des débats scientifiques sur la question.
De la luzerne, parce que la luzerne aurait été toxique.
Non, c'est plus compliqué que ça. Ça n'a strictement aucun intérêt. C'est qu'on a obligé un industriel de l'alimentation des animaux a changé son processus de séchage de la luzerne. Il sèche la luzerne, comme il est normal. Oui. Et dans le nouveau processus, il apparaît une saloperie qui s'appelle l'anthraquinone, dont on prétend qu'elle est cancérigène. Sauf que cette même anthraquinone existe naturellement dans des feuilles d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de plantes que les chèvres, les mouflons, etc. mangent naturellement. Et même vous, parce que ça apparaît dans le thé et dans d'autres...
Ah bon trucs. Oh là là, bah nous qui buvons du
donc,
thé...
Mais les gens adorent avoir peur. Vous avez en ce moment des tas de débats qui enquiquinent considérablement les agriculteurs, parce qu'on a mis fin à un certain nombre de cultures. Simplement, n'importe quoi devient toxique à partir du moment où vous augmentez la dose, mais le principe de précaution fait que la dose acceptable est la plus petite possible. Donc vous arrivez à rendre n'importe quoi, y compris l'eau pure. À un moment, il y a eu, Devels s'en était mêlé, il y a eu un procès fait au restaurant Buffalo Grill parce que il y avait deux personnes qui avaient mangé chez Buffalo Grill et qui avaient développé la maladie de la vache folle, Creutzfeldt-Jakob,
oui.
Ça s'appelle.
Oui,
et donc, on avait mis en examen la chaîne de restaurant Buffalo Grill. C'était une juge qui s'appelait Berthela Geoffroy qui avait fait ça. Et il a fallu des dizaines d'années pour que la chaîne de restaurants soit innocentée, mais entre-temps, elle avait perdu énormément de clients. Tout ça parce qu'il y avait deux personnes qui avaient développé une maladie, mais des gens qui mangent chez Buffalo Grill, il y en a des milliers, des centaines de milliers. Et avec Develz, on avait dit très bien, on va organiser le prochain déjeuner chez Buffalo Grill. Voilà.
Alors, il y a des questions d'auditeurs.
C'est plutôt des réactions d'auditeurs. Alors, un auditeur nous dit, merci Monsieur Tournafon, de rendre hommage au regretté Paul Develz.
Oui.
Vous rattrapez ainsi le manque total. Voilà.
Il y a peut-être eu d'autres hommages quand même sur Radio Courtoisie, j'imagine.
Moi, j'ai essayé de demander à la Société Mathématique de France, oui, qui est une société savante, est-ce que vous allez organiser quelque chose pour Develz ? Ils m'ont répondu non.
Ah oui.
Bah oui, et parce alors... qu'il était climato-sceptique et ça ne se fait pas d'organiser un hommage pour quelqu'un qui est climato-sceptique.
Mais même à la Société de Mathématiques, on tombe dans...
Société de France de Mathématiques, Société Française de Mathématiques.
Oui, c'est ça.
Alors, l'auditeur nous dit que... Il a réalisé 140 émissions, qui n'a pas été remercié.
Oh, pas remercié, et c'est lui qui est parti.
Radio Courtoisie.
Non, c'est un peu plus compliqué que ça, je crois pas qu'il... Ah, on l'a pas demandé.
Il est pris en flagrant délit.
Non, rien du tout.
D'injustice.
Non.
C'est un d'ingratitude.
Peu... Non, il est parti parce qu'il était, je crois, en difficulté avec les nouveaux horaires, ça l'agaçait... Je ne crois pas qu'il ait du tout été... Non, je crois qu'il était très apprécié. Beaucoup.
Oui, les nouveaux horaires l'ont beaucoup contrarié.
Les nouveaux horaires l'ont contrarié.
Ça ne devait pas correspondre comme à d'autres patrons d'émission.
Il se déplaçait avec difficulté à la fin.
Mm-hmm. Il est mort, le pauvre, il est mort relativement jeune. Bah, il était né en 1948. Il n'avait même pas atteint 80 ans.
J'y peux rien.
Non, mais je n'ai pas dit que vous y pouviez quelque chose.
Il est mort trop jeune. C'est désolant parce que c'est
triste,
un grand.
Pourquoi est-ce que vous
un grand scientifique. Alors attendez, on a un autre
si
auditeur qui
meurt avant 80
nous dit...
ans, on meurt dans la fleur de l'âge.
Oui, c'est sûr, c'est trop jeune.
C'est 4 fois 20 ans quand même, 80 ans.
92.
C'est 92, c'est 4 fois 20 ans plus 12 ans.
C'est totalement grotesque.
Bon, allez,
c'est pour ça qu'ils disent c'est pour ça qu'ils disent 92 ans en Suisse. Hein?
Ou 80 ou 70.
Ou 80.
Alors, c'est pas une question, c'est une réaction. Donc, un auditeur nous dit, si le fils est idiot, donc il fait allusion à la question de la monarchie et de l'héritier, on s'en aperçoit vite et avant l'accès au trône et l'entourage peut tout de même sauver les meubles.
C'est tout à fait exact.
Par exemple, même si l'on compare François Ier qui n'avait pas le gaz à tous les étages, ouais, et François Mitterrand, les dégâts sont incomparables. Bien entendu, dans certains cas insulaires, la taille des souverains peut masquer la microcéphalie. Alors là, j'ai du mal à lire.
Oui, vraiment, oui.
Microcéphalie.
Oui, je sais pas. Mais avec le peuple souverain, on a.
Le peuple souverain.
Mais c'est pas la taille du cerveau qui fait l'intelligence.
Non, regardez, les corbeaux ont un cerveau tout petit, ils sont aussi intelligents que les chimpanzés.
Et le cerveau d'Einstein, je crois qu'on peut voir
au musée Grévin.
L'homme.
Tu vois qu'on voit le cerveau d'Einstein
avant. Il était dans du formol, je l'ai vu.
Non, vraiment ? Tu as vu ça ?
Oui. Et il était plutôt plus petit que la moyenne, d'après ce qui...
Ah bon, mais vous ne savez pas qu'on pouvait visiter le cerveau d'Einstein.
On ne le visite pas, il est dans un pot de formol.
Ah, c'est intéressant.
Au musée de l'homme à Paris, au Trocadéro.
Ah bon, écoutez, j'en suis... Mais ce n'est pas une reproduction ?
Non, c'était son cerveau.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça demande à être vérifié quand même. Bon. Je sais pas, qu'est-ce que, chers collègues, vous pensez que
rien
peut demander
sur ce
à nos,
sujet.
Que nos cerveaux,
attends,
peut-être
regarder,
que on pourrait que demander
vérifier.
Que nos cerveaux soient exposés.
J'ai tendance à ne rien penser de la plupart des sujets que vous abordez.
Bah alors, parlez-nous des sujets sur lesquels vous pensez.
Vous pensez,
à ce moment-là. Puisque alors, est-ce que vous avez encore des choses à dire sur Develz?
Rien, en ce sens que j'admire sa pugnacité et sa capacité à vouloir défendre un pan de la science pendant 50 ans et il y a plutôt bien réussi. Oui. C'est quand même admirable, ça. Il y a peu d'universitaires, il s'est bagarré avec ses collègues toute sa vie, et il y a peu d'universitaires qui ont eu cette constance pendant une aussi longue durée. Il a écrit des livres, mais je ne serais pas capable de parler des aspects purement théoriques de ses travaux, y compris les valeurs extrêmes.
Alors, il y a un bobino, il y a un bobino qui doit passer. Excusez-moi de vous interrompre, parce que ça, c'est les publicités qui sont liées.
Allez-y, je vous en prie. C'est un plaisir
d'entendre
de
le
ne plus parler.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Il faut survivre. Je vais vous écouter.
Alors, donc,
je vais vous montrer comment faire.
Alors, donc, reprenons si vous voulez bien, parce que...
Avec plaisir.
Monseigneur, ça a l'air de vous amuser.
Il est beaucoup plus impliqué que moi dans les choses de l'État.
Ah, bah, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça pourrait venir, vu l'effondrement du régime. Alors, on n'en est pas au même stade que les Mollahs. Bon, président Macron n'a pas encore été tué dans son bunker, hein, contrairement à l'Ayatollah. Mais vu les menaces de Trump et de Vance et de Rubio sur le personnel politique européen, peut-être qu'un jour, on aura une intervention militaire aussi américaine sur notre sol, on ne sait jamais, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il faut revenir sur une idée convenue et stupide, c'est de croire que le fils du roi est toujours est idiot, qu'on peut avoir un idiot au pouvoir. D'abord, comme l'a dit très bien l'auditeur, généralement la famille s'organise pour prendre quelqu'un d'autre. Ensuite, ça peut arriver, mais ça marche en pilotage automatique, et de toute manière, statistiquement, on a fait une mesure, on a constaté qu'il n'y avait pas eu plus de rois stupides ou incapables qu'il n'y a eu de présidents stupides ou incapables. Parce qu'il y en a eu aussi beaucoup. Ou de présidents du Conseil. Statistiquement, vous qui vous intéressez aux statistiques, voyez, vous aussi, il n'y a pas eu plus de monarques stupides qu'il n'y a eu de présidents élus stupides. Aristote dit que, de toute façon, les deux systèmes sont aussi aléatoires l'un que l'autre. Et quant à le troisième système, c'est la compétence, on pourrait appeler la technocratie, il donne de très mauvais résultats également, parce que sur le papier, les gens sont extrêmement compétents. Ils sont par exemple anciens élèves de Polytechnique ou de l'ENA. Bon. Et puis en pratique, c'est un désastre absolu. Et par exemple, je donne un exemple, une manifestation de la stupidité des gens de l'ENA, c'est Monsieur Giscard d'Estaing, puisqu'il est mort, on ne doit plus dire monsieur, Valéry Giscard d'Estaing, qui abrite l'Ayatollah Khomeini parce qu'il postule que les religieux appartiennent à un autre temps, que les religieux sont has-been, que les religieux sont grotesques. Tout ça, c'est des vieilles superstitions d'un autre âge. Et ils s'y seront balayés par le fameux sens de l'histoire, dont nous rebattent les oreilles les marxistes depuis maintenant un siècle presque, plus d'un siècle même. Et que donc il n'y a aucun danger à porter au pouvoir un fanatique religieux, parce que de toute manière, les forces socialistes ne font de lui qu'une bouchée. On aurait des retombées pétrolières, on aura des avantages, des contrats, et ça c'était postulé en haut lieu, et je pense que ce même raisonnement a été tenu aussi à Washington du temps de Jimmy Carter, hein, c'était Jimmy Carter il me semble, qui était président, et alors on a laissé tomber un despote qui était peut-être despotique, mais qui avait été assez éclairé, qui était le Shah d'Iran. Et le résultat, c'est qu'on a eu une théocratie religieuse fanatique qui dure depuis 45 ans. Et ça fait partie... et pourtant, Valéry Giscard d'Estaing était très compétent. Inspecteur des finances, son ancien élève de Polytechnique, de l'ENA, tout de même. Il est très compétent. Et d'ailleurs, à cette époque, il y avait quelqu'un de très compétent avec lui, qui était Raymond Barre. Parce qu'on a pu dire, ah oui, mais vous comprenez, c'est parce qu'à l'époque, Giscard d'Estaing était Chirac, son premier ministre, Chirac était un con, un crétin, mais alors là, non, en 78, c'était déjà Raymond Barre, et qui était très compétent. Alors, et tous ces gens se sont trompés.
Raymond Barre, je crois, c'est le dernier ministre des Finances qui dit
premier ministre.
L'économie française en balance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de...
Oui, il y avait à l'équilibre.
Pas au-delà, à l'équilibre,
oui,
merci.
Oui, un...
Et qui dira que par la suite, la France déborde.
Ah c'était vu ensuite, mais ça bon. A été catastrophique après, avec Mitterrand. Oui, Bérénice.
Oui, Chirac était énarque aussi. Hein. Et il avait une très grande intelligence émotionnelle.
Oui, sans doute.
Alors que Giscard d'Estaing, il n'avait pas cette intelligence. Il avait plutôt une intelligence rationnelle.
Il travaillait dans la finance. Il cherchait des impôts. Donc,
humainement, il n'était pas...
Il est dans la notice que Wikipédia a publiée sur le professeur de Heuvel, ce qui est d'ailleurs plutôt très élogieuse. Hein. Il y a cette controverse sur les OGM, mais il n'est pas fait allusion aux autres controverses auxquelles notre collègue de Vels a été mêlé. Alors, est-ce que vous avez pu suivre les autres sujets qu'il a défendus? Je sais que, bah, même si vous ne voulez pas qu'on en parle, c'est quand même le climat. Il est intervenu là-dessus.
Il est intervenu à nombreuses reprises en ce qui concerne le climat. Il faisait partie des trois personnes au monde qui déclarent « le climat, on s'en fout ». La deuxième, c'était moi. Et le troisième, il s'appelle John Closer, c'est un prix Nobel de physique.
Oui, oui.
Donc on n'était que trois. Et encore, il y a un des trois qui ne vient pas au courant du fait qu'on est trois. Donc ça limite beaucoup le... Mais la dernière conférence de Develle, c'était « le climat, beaucoup de bruit pour rien
oui. ».
Et ça, c'est très mal vu. On a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre, mais déclarer « on s'en fout », c'est une offense à tout ce qui a pu y avoir de sacré dans l'État français. C'est un sujet sur lequel on n'a pas le droit d'être indifférent. Et Develle, comme moi-même, expliquait que c'était vraiment un sujet sans importance.
Mais bien sûr, mais là, vous vous trompez. Le sujet est sans importance, parce que c'est un non-sujet, parce que le CO2, on sait très bien qu'il n'a aucune efficacité. Ce qui n'est pas sans importance, c'est les réactions sociales. Quand on va vous interdire de vous chauffer, de circuler, et qu'on va vous priver de vos libertés élémentaires au nom du climat, comme veut le faire Madame Machin, là, Madame Heidi, Heidi, je ne sais plus comment, là, pour l'histoire des glaciers, parce que je lis, là, je suis désolé, mais je lis la conclusion... La conclusion, voilà, je la cite, c'est une collègue à vous, Heidi Sylvestre. Elle est en activité, celle-là. Elle nous dit, voilà, le phénomène, à moins d'un... Alors, c'est un tissu de sottise, à mon avis. À moins d'un gigantesque et bien improbable caprice de la nature. Comment ça, bien improbable? Et les glaciations, elle ne sait pas que ça existe, probablement. Bah, bien sûr qu'il peut y avoir une glaciation.
Je ne suis pas censé faire l'éducation.
Attendez, laissez-moi terminer, parce que c'est quand même moi qui dirige l'émission.
C'est difficile de vous en
Alors,
empêcher.
Caprice de la nature n'est pas réversible. Comment ça? Pourquoi le phénomène ne serait pas réversible? Mais on peut le ralentir au prix de décisions, certes drastiques, accompagnées d'efforts considérables. Certains, pour autant, ne sont pas insurmontables. Bon, bah, faut voir, si on vous prive de chauffage, c'est un peu embêtant. Cela peut sembler vain, mais si tout le monde s'y mettait, si tout le monde réduisait sa consommation d'énergie, donc sa production de monoxyde de carbone, nous gagnerions du temps, à tout le moins quelques centaines ou milliers d'années. Enfin, c'est ahurissant.
Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ?
Mais non, mais c'est important, mais je ne vous dis pas que scientifiquement... C'est pertinent.
Mais j'ai pas
je
dit que c'était pertinent.
Ce qui est important, c'est de.
Oui,
mais s'il y a une, bombe atomique qui tombe sur Paris, vous aurez dit que ça n'a pas d'intérêt scientifique. N'empêche qu'on sera tous morts. Ces gens-là sont extrêmement dangereux.
Mais non, ils sont pas dangereux.
Mais si, parce que tout le monde les suit,
ils
la preuve.
Ils sont dangereux par
bah,
le
non.
temps que vous y consacrez.
Mais non. Je ne ferai pas cette émission, qu'il y en aurait plein d'autres qui nous bassineraient. Eh ben non. Au contraire, c'est en s'opposant à ce genre d'ineptie. Parce qu'il y a une confusion manifeste dans l'article que je vous ai envoyé d'ailleurs, entre d'une part ce qui relève des cycles naturels, ce que dit très bien François Gervais, parce que il y a des glaciations, il y a 24 000 ans il y avait une glaciation, il y a ce qui relève des cycles, alors certainement les glaciers fondent, certainement le climat se réchauffe, d'accord, et c'est ennuyeux à certains égards, pour les stations de sport d'hiver notamment. Mais d'autre part, il y a aussi l'effet de l'homme. Mais l'effet de l'homme n'a rien à voir sur la fonte des glaciers, où c'est minimal.
Victor Hugo vous a répondu d'avance.
Alors, attendez.
L'honnête homme recule et s'accoude à l'écart.
Oui, peut-être.
C'est
enfin,
ça.
Bon,
voilà. C'est dans les châtiments. Relisez les châtiments
peut-être,
et vous irez beaucoup
peut-être.
Mieux.
Bon, on va plus à rien de faire des émissions à ce moment-là.
Pour ça, je suis bien de cet avis. Hein.
Oui, voilà. Alors, des questions d'auditeurs.
Un auditeur nous dit, peut-on faire remarquer que votre émission est pratiquement la seule à évoquer des sujets scientifiques sur notre radio courtoisie.
Bon, oui.
Il faut croire que le cinéma est bien plus important, bien qu'il soit intéressant. Puis, tout ça est compliqué. Alors, sur le cerveau d'Einstein, l'auditeur nous dit. Le cerveau d'Einstein a été prélevé, un peu pour l'examiner en espérant sans doute trouver la bosse des maths, mais aussi comme talisman sacré. L'homme avait sans doute bien malgré lui et à l'insu de son plein gré acquis le statut d'icône de son vivant. S'il semble ne pas avoir tout compris de sa propre théorie de la relativité restreinte, il avait tout de même été assez clairvoyant pour refuser la présidence d'Israël, ce qui semblait ne pas soulever son enthousiasme.
Ah, on lui a proposé la présidence de l'État d'Israël.
Ça n'a vraiment rien à voir.
C'est compliqué, ça.
Mais oui, peut-être que certains ont pensé...
J'ai vu qu'il y avait des petites parties de son cerveau un peu partout. Moi, je pensais qu'il...
Des petites parties de son... Ah bon, parce oui, que son cerveau a été...
C'est
comme le mur de... aussi qu'il existait le crâne de Voltaire enfant. C'est très intéressant, ça.
Ah,
il est y a des municipalités qui gardent une trace du crâne de Voltaire enfant.
Mais c'est un moulage.
Mais c'est comme les langoustes. Il a mué plusieurs fois.
Mais est-ce que c'est peut-être dans le cadre des études phrénologiques? Parce que vous savez, la phrénologie a été une discipline scientifique.
Est-ce que vous avez l'intention d'aborder des sujets intéressants?
Bien sûr. Alors,
moi,
allez-y.
J'ai une question.
Allez-y. Parlez-nous de sujets intéressants.
Moi, j'ai une question.
Mais laisse notre collègue parler de sujets intéressants.
Je vous en prie, si elle ne concerne pas le climat.
Mais non, enfin, allez bien, on parle de Vels, c'est intéressant.
Elle concerne de Vels, justement. Vous dites qu'il n'avait pas d'intérêt particulier pour le climat.
Non, au contraire.
Au contraire. Mais il faisait partie de cette association des climato-sceptiques,
non? Je ne crois pas, mais j'en sais rien, j'en fais pas partie moi-même.
Alors, il est, en tout cas, sur le site de l'association, il y a ses publications.
C'est okay. Possible, ça
voilà.
Peut pas empêcher.
Oui. Et il y a un article de lui aussi, et il y a également sa conférence.
Bien sûr.
Et qu'est-ce qui l'intéressait particulièrement, alors? Quelle était sa passion?
Un homme passionné de science, et en tant que statisticien, ce qui l'intéressait, c'est que les données fussent exactes. Aussi précise que possible, et à partir de données qu'on récupère sur n'importe quoi. Sur le climat, il y a beaucoup de données qui existent. Dans la plupart des pays civilisés, les données climatiques ont 200 ans, donc il est facile de les récupérer et de voir quelle est l'évolution. Mais c'est ça qui intéressait de Vels, ce qui m'intéresse aussi, mais moins. Et à partir de ces données-là, il montrait que toutes les conclusions qu'on trouve dans la presse à l'heure actuelle sont erronées.
C'est ça.
En particulier, par exemple, qu'il n'y a pas systématiquement de fonte des glaciers. Pour en revenir sur cet exemple-ci, il y a un livre qui date, Roger Vercel, à l'assaut des pôles, qui explique que dans les années 1820, le pôle Nord était entièrement libre de glace. Les bateaux pouvaient aller librement. Vous savez que le pôle Nord, il n'y a pas de terre. Au pôle Sud, il y a un continent, mais au pôle Nord, il n'y a pas de continent. Donc vers les années 1820, Roger Vercel raconte dans son bouquin À l'assaut des pôles, qui est dans le livre de poche, et vous pouvez vous procurer pour une fraction du prix de mon bouquin, et ben dans ce bouquin-là, il explique qu'en 1817 ou 1820, le pôle Nord était libre de glace et que les baleiniers s'étaient précipités pour explorer cette région-là du pôle. Et quand De Vels a raconté ça dans son émission, il y a des gens qui ont dit « Ah oui, mais c'est scandaleux, parce que Roger Vercel a été condamné parce qu'il avait collaboré pendant l'occupation.
Ah. »
Comme si ça avait le moindre rapport avec son livre.
Ça fait fondre les glaces.
Ouais. Oui, j'ai regardé, alors en plus c'est facile à vérifier, est-ce que le pôle Nord était libre de glace en 1817 ou pas? Il doit y avoir des traces dans les journaux de l'époque, c'est quand même évident ça. Mais les gens ne voulaient pas regarder les journaux, ils cherchaient des choses pour annihiler la position de Roger Vercel, qui est un écrivain très connu, il a eu le prix de je ne sais quoi, enfin bon.
Mais même aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est les carottages dans les glaces,
oui.
Où on peut remonter à plusieurs centaines d'années le climat. Ou alors des éruptions volcaniques, etc. J'ai appris récemment que le Krakao, je ne sais pas comment il s'appelle, ce volcan qui a eu une éruption particulièrement importante en 1788 ou quelque chose comme ça, expliquerait pourquoi l'hiver 1789 a été si froid.
Il y avait
de la poussière, et de la cendre dans l'atmosphère.
Vous avez complètement raison.
Et l'hiver 1789 est l'hiver le plus froid jamais enregistré en France depuis qu'on note les températures en France.
C'est ça.
Donc, on trouve des choses dans ces carottages absolument passionnants.
Le climat est assez bien documenté, et pour les gens que ça intéresse, il y a des livres de Leroy Ladurie, qui est le spécialiste
du climat,
qui sont en vente libre pour des prix raisonnables, et que les auditeurs de Radio Courtoisie n'achèteront pas. Et dans ces conditions, c'est pas la peine d'en discuter. Le climat est assez bien documenté, et quand vous regardez ce que faisait De Vels, soit les données précises telles qu'on peut les récupérer sur les sites appropriés, et elles existent, soit les données climatiques anciennes à partir de carottage ou d'autres choses, vous constatez que les évolutions ordinaires du climat, à l'heure actuelle, elles ne sont pas différentes de celles qu'il y avait dans le passé. Pour dire les choses grossièrement, il ne s'est rien passé de significatif au cours des 2000 dernières années. Voilà.
Oui.
C'est ça que De Vels voulait faire entendre, mais Il n'y a pas réussi et je n'espère pas y parvenir.
Mais
non.
Ceci dit, le climat sur notre planète est un peu comme une sinusoïdale, oui. qui ça monte et ça descend.
C'est plus compliqué que ça. Il y a eu une période, puisque vous abordez le sujet, mais ils nous cassent les pieds avec leur climat. Il y a eu une période glaciaire qui a duré environ 100 000 ans, qui est bien documentée, une période glaciaire, la planète était gelée.
La Manche était un glacier.
Et ça a cessé il y a environ 10 à 20 000 ans. Donc depuis, il y a un certain réchauffement dû au fait qu'on est sorti de cette période glaciaire. Il y en a eu d'autres avant, on ne sait pas trop quand ni pourquoi. Et on ne sait pas à quoi c'est dû. Mais il n'y a rien qui pour s'inquiéter. Quoi, voilà.
Est-ce que ce sont les paramètres de Milankovitch?
Non, ce ne sont pas.
Ou est-ce que c'est les variations de l'activité solaire?
Ce sont plutôt les variations de l'activité solaire, ou alors c'est la connerie humaine, j'en sais
pas. Ah non, mais les glaciers, ils ont existé, indépendamment d'ailleurs de la bêtise
des hommes.
Mais
quand ils fondent, on trouve des baraques en dessous, alors ce qui prouve bien qu'ils n'ont pas été là tout le temps.
Parce que nos ancêtres ont connu les glaciations.
Les Vikings en Groenland, entre
autres. Bien sûr, oui. Groenland, quand on l'a découvert, il était vert.
Oui, mais c'est pour ça que ça s'appelle en anglais.
Groenland.
Donc De Vevel s'était attaché, simplement, pas spécialement au climat, mais à la vérité scientifique. Et encore une fois, comme statisticien, il était plus proche des nombres qu'un mathématicien ordinaire. Il était en prise directe avec l'utilisation que la société civile fait des données expérimentales.
Mais alors justement, est-ce que les statistiques, il faisait des statistiques un peu comme vous dans le cadre de votre société
Non, lui c'était un vrai statisticien, ce que je ne suis pas. Moi je suis probabiliste, c'est pas la même chose. La différence c'est que les statistiques travaillent sur des grands échantillons de données pour lesquels la loi est connue. Et par exemple, en ce qui concerne les élections qu'on va vivre prochainement, il y a des panels qu'on a arrangés, examinés, interrogés, et à partir de ces panels, on va reconstituer qui va voter pour qui. Et ça, c'est des statistiques, et c'est des statistiques à peu près exactes. Il y a des marges d'erreur, mais c'est ça que faisait De Vevels. Vous arrivez à reconstituer l'opinion d'une population à partir d'un panel. Et par exemple, nous avons fait ça sur un sujet différent pour Veolia Environnement, pour arriver à connaître la consommation d'eau sur une région à partir d'un petit nombre de relevés. C'est ça, les statistiques. Extrapoler à partir d'un petit nombre de relevés, et c'est devenu, je dirais pas une science exacte, parce que rien n'est une science complètement exacte, mais ils ont fait de très gros progrès. Et le deuxième aspect des statistiques, c'est ce qu'on appelle les tests de statistiques, qui permettent de savoir si tel phénomène suit ou ne suit pas telle et telle loi. Donc est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce que ça casse dans 20 ans ou pas, etc.
D'accord. Mais alors justement, pour prévoir, par exemple, le vote d'une population avec ces statistiques, il y a un aspect irrationnel, enfin, et très émotionnel,
non ? Pas du tout.
Pas ?
Non, au contraire, ça veut dire que vous avez enregistré. D'abord, ça s'appelle stratifier. Vous avez décomposé la population en petits morceaux, entre 10 et 20 ans, 20 à 30 ans, etc., par catégorie socio-professionnelle, etc. Et puis vous avez interrogé les gens dans chaque strate, en chaque petit morceau, pour savoir pour qui ils votaient. Et si par exemple vous avez 300 personnes dans une strate et qu'il y a 300 000, et bien vous extrapolez de 300 à 300 000, mais parce que la strate est homogène et que vous savez comment elle va voter.
C'est très triste, moi qui pensais que le français était gaulois et imprévisible. Et
non,
vous
non,
dites
non,
qu'on peut tout
prévoir. Ils sont individuellement imprévisibles, mais collectivement c'est très prévisible. En France, c'est plus difficile aux États-Unis parce que les moyens de vote sont différents. On ne vote pas d'un seul coup. Mais en France, vous votez directement, par exemple, pour le président de la République ou pour votre député. Et les marges d'erreur en ce qui concerne les statistiques électorales sont très, très faibles. Les instituts ne se trompent pratiquement jamais.
D'accord. Et c'est donc plutôt en fonction des catégories socio-professionnelles et de l'âge ou
Ça, il faut regarder ça à De Vevels. Ouais. Mais essentiellement, ils utilisent la catégorie socio-professionnelle, l'âge, savoir si vous êtes à la campagne ou à la ville, etc. Mais c'est des trucs qu'ils ont décomposés depuis longtemps. C'est les mêmes strates qu'ils utilisent à chaque fois.
Mais pourquoi on va voter, finalement?
Alors... Vous pourriez vous abstenir.
Ça changera rien.
Je réponds très clairement à votre question. Nous avions fait ça pour Veolia en ce qui concerne la consommation d'eau. Et on leur avait dit, on le prévoit avec une telle marge d'erreur si faible, 0,5%, que c'est plus la peine de faire des mesures. Vous pourriez vous en abstenir. Alors, pour répondre à votre question, il peut y avoir des dérives. Par exemple, en politique, si quelqu'un change ou un nouveau candidat arrive, etc. Mais pour la consommation d'eau, c'était vraiment une science exacte. Vous voyez ?
Est-ce qu'on pourrait prévoir le résultat de la prochaine élection présidentielle ?
Je pense que c'est assez facile, oui.
Ah oui, mais il faut avoir le nom de tous les prétendants.
Il faudra avoir le nom des prétendants, oui. j'imagine.
Et c'est fascinant de voir que si la France était une entreprise, elle est considérée comme totalement en faillite, irrécupérable. Même pas, ça ne vaudrait même pas un euro symbolique. Et pourtant, il y a une quantité phénoménale de gens qui sont prêts à se présenter pour être à la tête de cette entreprise qui ne vaut rien, finalement.
Oui, mais parce qu'il y a des avantages attachés à la fonction. Et qu'il, c'est comme une pyramide, c'est comme les pyramides, vous savez.
C'est à cela que je voulais
la
en dire.
Fameuse pyramide.
Même dans une entreprise privée en faillite, vous avez plein de candidats à la présidence. Ça rapporte de l'argent de toute façon. Et puis c'est une société anonyme, donc ils ne sont pas comptables de la faillite sur leurs biens propres.
Sauf si ça se tourne très très mal à la fin.
Oui, mais il faudrait une révolution et qu'on les guillotine comme on l'a fait avec Louis XVI.
Ou des missiles, comme on l'a vu à Téhéran il n'y a pas longtemps. Ou être enlevé par...
Enfin voilà le but des statistiques, c'est ça que faisait De Heuvels, et il le faisait aussi bien pour des industriels. Mmh. Les industriels, par exemple pour Total, ont besoin de savoir, de faire des statistiques sur la durée de vie de leurs équipements, quelle est la probabilité de trouver du pétrole à tel et tel endroit, sachant que ça a telle et telle structure, etc. Ils sont très demandeurs. Il avait beaucoup de contrats industriels, beaucoup plus que moi.
Ah oui, des contrats dans le cadre de son activité de chercheur.
Oui, bien sûr, il avait des contrats et je dirais que les statistiques par rapport aux industriels ont été reconnues, ça fait très longtemps. Mm-hmm. Alors que les probabilités, moi j'ai beaucoup plus de mal à les faire comprendre aux industriels parce que c'est plus récent et qu'ils ne voient pas bien le lien. Quoi. Voilà. Ça commence à venir, mais c'est plus dur. De Heuvels avait une respectabilité acquise dès l'origine, c'est ça que je veux dire.
Mm-hmm.
Alors, une question qui pourrait être intéressante, à part donc, les OGM, où il a été pris dans une controverse, à part les questions climatiques que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il y a eu d'autres sujets ou d'autres thèmes dans lesquels il s'est impliqué ?
Pas que je sache, mais on ne se voyait pas très souvent. Il venait aux conférences que nous organisions et c'était tout. Je le connaissais très peu par ailleurs.
Je pensais que c'était un ami plus proche. Moi.
Non.
Non, parce qu'il faudrait revoir quels étaient les thèmes des émissions qu'il abordait sur Radio Courtoisie.
Il m'a invité une fois ou deux.
Oui, vous avez participé. Oui. Et c'était quel thème, vous vous souvenez encore ?
C'était sur le climat.
Ah bah oui, vous voyez qu'il n'y a pas que moi. Okay, écoutez, qu'est-ce que je vous dis ? Vous êtes comme quelqu'un qui serait à terre en disant, on a marre de ces bombardements, je ne veux plus qu'on parle de bombardements.
Justement, j'ai fini par en être saturé. Mais on parlait aussi de l'impact, enfin globalement, de la diffusion de la science dans la société. Et il se plaignait comme moi, mais de manière plus vigoureuse, du fait que la société civile devenait largement irrationnelle et n'était plus intéressée du tout par quelque aspect de raisonnement que ce soit. Voilà.
Tout à fait exact. J'ai observé aussi l'incapacité des jeunes générations à suivre un raisonnement rationnel. Et ils dérivent très vite vers ce qu'on appelle le verbalisme. C'est-à-dire qu'ils utilisent les mots, les phrases, non pas pour développer des idées, mais en espérant éveiller un sentiment positif dans l'auditoire. Et alors ça donne des discours très convenus et complètement décousus, qui finalement n'ont dit que dix têtes.
Un point sur lequel j'ai connu De Heuvels de manière assez approchée, c'est qu'il a participé à la direction des thèses que j'ai moi-même dirigées. J'ai dirigé au total 25 thèses et il a été président de la plupart des dernières thèses. À l'époque où j'avais quitté l'université, donc j'avais des difficultés à faire accepter ces thèses-là, et De Heuvels c'était le président, et il se bagarrait avec ses collègues pour faire accepter les thèses. Ce n'était jamais une partie de plaisir. En particulier, la dernière, c'était sur la sûreté nucléaire, et l'université n'aimait pas ça, parce qu'ils sont traditionnellement d'extrême-gauche. Donc, il n'aimait pas la sûreté nucléaire, ni d'ailleurs ce qui est nucléaire en général, ni même l'énergie en général.
Il n'aime pas l'énergie.
Voilà. Pour les universitaires, ce qu'il faut, c'est qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent travailler tranquille. Le fait qu'il faille produire de l'énergie pour qu'ils puissent travailler et les éclairer, c'est secondaire. Donc, De Heuvels a été président des derniers jurys de thèse, des thèses que j'ai dirigées. Il m'a bien rendu service parce qu'il fallait se bagarrer à chaque fois. Pour convaincre les universitaires qui ne voulaient pas se laisser convaincre, donc c'était devenu un bras de fer. Mais comme il était membre de l'Académie des sciences, ça a aidé.
Oui.
En tout cas, il était très courageux, il a fait beaucoup d'émissions, une sur les mensonges du Covid.
Ah, bah oui, très bien. Oui. Il a fait sur la circulation automobile.
Sur l'agriculture, sur les combats pour la vie.
Oui.
Bah, c'est toujours ça, c'est le même sujet, c'est tout ça. on ment sur un certain nombre de données qui ont été utilisées de manière non appropriée pour démontrer quelque chose auquel la société civile croit, mais qui n'a pas de réalité.
Alors, il était intervenu pour parler des fameuses ZFE, qui sont aujourd'hui en principe disparues, les zones à faible émission de particules, puisque j'avais eu des échos d'une émission qu'il avait organisée là-dessus, où il avait montré que les fameuses microparticules étaient en forte diminution, que par rapport aux années 70, c'était infinitésimal désormais, il y avait beaucoup moins d'ailleurs de pollution à Paris, et que de toute manière, les microparticules allaient aller en diminuant toujours, puisqu'il y avait le perfectionnement des moteurs, la disparition progressive du chauffage au fioul et au charbon, et que les microparticules arrivaient à des taux très raisonnables, puisque en surface, on est à 80 microgrammes par mètre cube d'air pour déclencher un seuil d'alerte, alors que dans le métro, on est toujours à 300 microgrammes par mètre cube d'air. Et personne n'aurait jamais l'idée de fermer le métro. Et d'ailleurs, dans ces 300 microgrammes par mètre cube d'air du métro, il y a pas mal de particules d'amiante en plus. Et ça, personne n'est au courant.
Ce sont des choses différentes. Nous avons travaillé là-dessus pour la RATP. Ouais. Il y a effectivement des particules dans le métro. Elles sont essentiellement dues, croit-on, au freinage des métros qui émettent un certain nombre de particules quand les plaquettes se désagrègent. Oui. Le problème, c'est que de toute façon, les gens ne restent pas toute la journée dans le métro. Ils prennent le métro, puis ils en sortent. Et nous avons fait le calcul, histoire de rigoler, quoi. Moi, j'ai plutôt bon caractère et je suis gentil avec tout le monde, mais on a voulu savoir ce qui se passait dans les écoles. Et on a voulu comparer l'exposition cumulée d'un voyageur qui prenait le métro une heure et d'un enfant qui restait à l'école toute la journée. Et évidemment, l'enfant absorbe beaucoup plus de particules que le voyageur du métro. Autrement dit, il est très dangereux d'aller à l'école pour des tas de raisons.
Je l'ai toujours dit.
Oui. Là, vous avez un argument supplémentaire.
Ouais, alors, merci.
Je vous en prie, à votre service.
En fait, on est très dangereux d'aller à l'école parce qu'on se fait bourrer le crâne dès l'enfance.
Et les poumons, en plus. Voilà,
et le crâne et les poumons.
Ça rentre par tous les orifices.
Et c'est tout à fait ça, oui. C'est très dangereux, ça. Alors, d'autres... Oui, je vois que tu...
Alors, il a aussi animé une émission sur le thème « Se délivrer de l'éco-anxiété ».
Ah, très intéressant.
Et finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets... qui sont faussés par une désinformation qui s'explique par le fait que le politique gouverne quand même beaucoup par la peur. Hein.
C'est ce qu'il explique dans son ouvrage.
Ouais, c'est ça.
Voilà, vous avez un chapitre consacré à ça.
Le politique gouverne par la peur parce que le peuple a envie d'être gouverné par la peur. Allez-y.
Quand on gouverne par la peur, c'est parce que tout le reste ne fonctionne pas.
Oui,
c'est vrai. D'ailleurs. Tout. Je suis d'accord. Oui.
Est-ce qu'ils ont essayé tout le reste ?
La peur ou la terreur, c'est parce que le reste ne fonctionne pas, c'est tout.
Bien sûr. Bah, regardez, 1794, hein, c'est évident. Vous avez un truc sur la peur ? Vous avez un chapitre sur la...
Mais je...
La, vous voyez ?
Bah non,
la peur, de toute façon, la peur se vend bien.
On va bien se distraire un peu.
La peur se vend bien.
Je me souviendrai de mon professeur en géométrie. Je ne sais pas en quelle classe j'étais, une petite classe qui nous expliquait que de partir du point A pour aller au point B, pour revenir au point A, ça ne servait à rien.
Bien sûr.
Et alors donc j'avais dit que demain je resterais à la maison. ça m'a coûté une colle quand même.
Non, mon frère. Bon. Enfin, ouais,
compris sa démonstration.
Il n'avait vraiment pas le sens de l'humour. Alors voilà quelques questions nouvelles.
Alors on a un auditeur qui nous demande si on peut réécouter les émissions de Monsieur De Vels. Et effectivement, c'est très facile. Il vous suffit de vous connecter sur Radio Courtoisie en ligne sur Internet et vous allez dans le moteur de recherche. Il y a une petite loupe et tapez son nom et là ça vous met absolument toutes les émissions qu'il a réalisées et comme ça vous pouvez les réécouter.
Alors comme il y a eu 148 émissions et qu'elles faisaient à l'époque 3 heures, ça vous fait quand même pas loin de 420 heures d'émission à écouter, donc on a pour un certain temps. Alors,
un auditeur nous demande si on peut communiquer le nom et le titre du livre du professeur Bozami.
Ça ne va pas dire qu'il va l'acheter, c'est pour se donner
votre conscience. Écoutez, vous êtes toujours déceptif, je remarque.
Et vous parlez du...
Ah, il parle alors, de tout là-dedans.
De tout. Il parle de tout. Donc c'est...
Pourquoi voulez-vous qu'il l'achète si vous en dites des choses comme ça?
Mais écoutez, il parle de tout. Le livre est aussi agréable à lire que vous êtes désagréable à entendre à la radio. Je suis désolé de vous dire ça. Là, je dis une vérité, parce que vous êtes quand même extrêmement caractériel. Hein. Mais n'empêche que le livre est passionnant. Voilà.
Okay, ah oui, Olivier me dit tout le temps.
Le livre est très bien.
Dire,
par contre, comme invité,
je me suis rarement et
à moins de. Vous nous soumettez à rude
épreuve. Olivier, le nom et le titre. Donc le titre, c'est Meurs, vieux lâche. Il est trop tard.
Oui.
Essai sur l'effondrement d'une civilisation.
Oui, c'est très juste. Oui.
Édité par la Société d'études et de conseils mathématiques.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Et l'auteur, donc, Bernard Bozami.
Voilà.
Je ne suis pas vraiment d'accord quand vous dites que la plupart des régimes ont régné par la
pas
peur.
Pas la plupart, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça.
En ce moment, peut-être.
On règne par la peur, oui, dans les... parce que quand on
là,
est...
La plupart des régimes ont essayé...
Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit en ce moment.
Oui, il n'a pas dit. Il a pas dit
aujourd'hui,
dit,
en ce moment, ils en rajoutent sur la peur.
Ils en rajoutent une couche depuis le Covid. Hein.
Même avant, c'est...
Alors, vous avez trois grands périls qui nous menacent en permanence. D'abord, il y a un péril très ancien, l'extrême droite. L'extrême droite, c'est une ombre qui plane sur la Terre et qui menace tout le monde, surtout à gauche. Alors, l'extrême droite, c'est la réduction à Hitlerum. Ça, c'est le premier grand péril. Ensuite, vous avez un deuxième terrible péril, c'était le Covid. Alors après, il y a eu un troisième, un péril 2 bis, c'était la Russie. La Russie, sauf que comme elle a du mal à arriver jusqu'à Kiev, bon, le temps qu'elle arrive à Paris, bon, ça commence à s'user. Et puis alors maintenant, comme l'avait dit quelqu'un, le troisième terrible grand péril, c'est l'apocalypse climatique. Sauf que entre temps, il y aura peut-être une guerre qui va tout changer. Ouais, peut-être que ça va changer les idées aux gens. Mais d'ailleurs, bien sûr, les systèmes actuels gouvernent par la peur, parce que dans un système démocratique, c'est ça qui marche bien. La cupidité et la peur, c'est basique. Hein. Alors voilà les quelques émissions.
Même aux informations l'autre jour, c'est aussi simple que ça. Ça fait un mois qu'il pleut sur toute la France.
Oui.
Finalement, il y avait un jour de beau temps. On nous a dit, c'est pas normal, c'est la canicule.
Ah, mais j'ai vu ça. Ah, ben moi j'ai vu ça. Ah, ben j'ai vu ça.
Sur les plages,
ah, mais absolument.
C'est monstrueux, c'est affreux.
Ah, ben
etc.,
je sais,
etc.
J'ai vu ça.
C'est un jour de beau temps, et voilà ce qu'on nous sait.
Et là, il fait beau depuis trois jours.
Il a toujours fait beau au mois de mars.
Bah oui, il y a toujours une période de beau temps. Il y a toujours une période de beau temps.
Le froid qui revient début juin en général.
Oui, c'est ça. Non, il y a les saintes glaces entre les deux.
Oui, c'est ça.
Ah, les saintes glaces. Il faudra faire une émission sur les saintes glaces.
Ne plantez pas vos radis.
La vie de saint
Ce qui me paraît frappant dans l'état actuel des choses, c'est pas seulement la peur, c'est l'absence de curiosité pour quelque sujet que ce soit. Les gens ont leurs convictions, ils se cramponnent à leurs convictions, et en particulier les industriels avec qui je travaille, quel que soit le domaine, ils ne cherchent jamais à étendre leur activité, ils cherchent à se faire certifier, normaliser,
oui, ça, c'est vrai.
De manière à ce qu'il y ait un coup de tampon sur leur activité, et que s'ils ont des emmerdements, on ne puisse pas le leur reprocher, puisque ça a été validé par...
Mais il y a des normes sur tout.
Voilà, il y a des normes sur tout, ils les réclament.
Ils ont peur, donc il faut avoir le tampon qui vous permet d'avancer.
Mais c'est précisément le contraire de la curiosité intellectuelle.
Et comme personne ne veut donner le tampon, parce que celui qui tient le tampon a peur de mettre un tampon sur quelque chose auquel on risque de lui reprocher,
non,
on n'avance pas.
Le tampon, ils le mettent très facilement. Il y a des organismes dont c'est le métier que de mettre le tampon, et il n'y a rien de plus facile que d'avoir un tampon.
Ouais, c'est ce qui permet de vendre après les produits, finalement.
Il est factice, ce tampon.
Le temps avance.
Il existe. Il y a des organismes dont c'est le métier. C'est le rôle. Donc ça, il y en a plein. Mais, je vais prendre un exemple concret. Il y a eu une explosion à AZF dans les années 2000.
Je me souviens.
L'usine à Toulouse qui a explosé. C'était un produit qui s'appelait nitrate d'ammonium, qui est un engrais très ordinaire. Et normalement, on le fabrique.
Un désherbant, non?
Oui. C'est un engrais, pardon. Oui, pas un désherbant. Et on le fabrique et ça passe très bien, mais il semble que ça soit instable si certaines proportions sont modifiées. Et ce que j'ai dit aux industriels, on a été un peu mêlés à cette question-là, ce que j'ai dit aux industriels, c'est que vous devriez faire des essais, voir quelles sont les propriétés du produit, si c'est le machin, et plus 3%, moins 2%, etc. Ils n'ont jamais voulu. Leur problème, c'était qu'ils voulaient faire certifier. L'usine était certifiée, le process de fabrication était certifié, le reste, on s'en fout. Voilà. Et alors qu'il aurait fallu faire des analyses, en quelque sorte, de variabilité pour voir quelles étaient les propriétés du produit qui ne devait pas être si stable que ça, voilà.
Ça confirme
mais,
pas.
Mais c'est ahurissant, après ce que vous dites, d'entendre ça, parce que il suffit de faire le test dans un laboratoire avec des quantités minimisées.
Bien sûr, mais ils veulent pas.
Pour savoir jusqu'à quel moment, à quel moment ça devient dangereux.
Mais ils ne veulent
et pas. Et de s'en écarter d'un pourcentage
nous, nous
de temps.
Nous avons 30 années d'existence sur ces questions-là, et on a eu des contrats avec ArcelorMittal et d'autres pour voir la qualité d'acier avec telle proportion de machin truc. Et ce que je leur disais, c'est... Ce que vous avez observé, ce que vous avez enregistré, c'est des grands, ça s'appelle des plans d'expérience, des grandes données que la nature vous a fournies. Exploitez ces données-là. Si ça se trouve, vous allez trouver des réglages qui sont meilleurs que les vôtres. Pourquoi alors, pas ? Eh bien, ils ne veulent pas.
Améliorer dans un sens et connaître la faiblesse dans l'autre.
Eh bien, ils ne veulent pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ça soit le plus constant possible. C'est et même des très grands industriels comme ArcelorMittal, Eramet, etc.
Oui, parce que ça marche comme ça, donc on s'en fout.
Oui. Et ça, c'est constant à tous les niveaux. Et même la, les plus grands industriels comme Total et Eramet.
C'est ahurissant.
Bah, business,
c'est une constante
business,
de l'état actuel de la, l'idéologie. C'est pire que la peur, ça. C'est le refus de toute curiosité.
C'est, on s'engouffre dans l'ignorance parce qu'on est satisfait que ce qu'on
a... C'est pas de l'ignorance, c'est du repli sur une position figée à l'avance.
Conformiste. Conformiste.
La mort d'incuriosité, comme disait Baudelaire.
Comme, oui, elle se disait, un autre Bernard, que nous avons vu hier soir, qui est directeur de laboratoire, il dit, ils sont corporate, on ne veut pas d'ennuis, pas de vagues, et voilà, c'est tout.
Oui, mais les chercheurs sont, sont complices de ça, et même quelquefois moteurs, c'est-à-dire qu'ils réclament simplement les variations qui les arrangent et qui les intéressent.
Alors, il faut lire les quelques questions. Qui...
Alors, il y a un hommage, un hommage à Paul de Vels qui a été rédigé, qui est publié sur le site climat-et-vérité.net.
Alors, je voulais juste, avant que le prince ne s'en aille, est-ce que les glaciers ont disparu de Pôle Sud, Monseigneur ? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire...
J'ai été les voir, ils sont bien là.
Ils sont bien là, ouf, ça va, ouf, merci.
Ça je suis en 40 mètres de
glace. Je suis soulagé.
Le mètres de haut, il est toujours là.
Bon, ça va, ouf.
Entre autres.
Donc, je lis l'hommage à Paul de Vels que cet auditeur donc, a publié sur le site climat-et-vérité.net.
Ah, encore le climat.
Je rends hommage à Paul de Vels au nom des auditeurs de Radio Courtoisie qui a été un remarquable radio culturel indépendant de haut niveau. Jusqu'au bout, fidèle auditeur de son émission mensuelle, le Libre Journal des Sciences et Techniques, je n'en ai loupé aucune, en direct comme en différé, peut-être 140 émissions en 12 années de 3 heures chacune. Elle constitue un patrimoine irremplaçable dans les archives audio de cette radio. Paul avait un talent exceptionnel pour traiter de tous les sujets scientifiques, même les plus controversés, avec un mélange unique de compétences, de pédagogie, de gentillesse et de courage. Sa stature lui permettait de faire appel aux meilleurs experts, universitaires et industriels. Il savait les mettre en valeur et leur faire exprimer le meilleur d'eux-mêmes de façon passionnante pour des littéraires comme pour des scientifiques. Ce qui donnait toute sa force et sa dimension au propos de Paul de Vels, c'est que derrière le grand esprit scientifique émerveillé par la nature, il y avait un humaniste, un philosophe et on percevait même le poète intime et l'homme de foi. La disparition de Paul de Vels nous rend profondément tristes car nous savons qu'il sera irremplaçable. Merci Paul pour ton exemple. Nous te réécouterons, nous penserons toujours à toi dans nos combats quotidiens pour que prévale la vraie science au service du bien commun, non pervertie par l'idéologie. La vérité l'emportera toujours sur l'obscurantisme.
Bon, bah écoute, c'est un très beau élève, très bel hommage, je trouve, magnifique. Merci, cher auditeur, nous sommes très touchés d'entendre cela. Et je trouve que c'est admirable ce que vous avez écrit. Alors, y a-t-il d'autres, aussi d'autres questions, peut-être ?
Oui, alors un auditeur nous dit « Difficile d'accepter que perdure sur Radio Courtoisie ce refus de considérer que les activités industrielles avec émissions de gaz n'induisent une pollution atmosphérique avec effet de serre. Quoi qu'il en soit, la question est plutôt de considérer que les solutions dites écologiques prises par les gouvernements sont systématiquement pires comme remède que le mal.
Oui,
en cela, il faut les condamner sans réserve et constamment.
Alors, je vais lire une de... C'est tiré de votre livre, page 101. C'est une citation de John Clauser, prix Nobel de physique, en 2022. Et voilà ce que dit John Clauser, que vous citez à la page 101. Le narratif commun sur le changement climatique constitue une dangereuse corruption de la science qui menace l'économie mondiale et le bien-être de milliards de personnes. Une science climatique mal orientée s'est métastasée en une pseudo-science journalistique massive. À son tour, celle-ci s'est faite bouc émissaire de quantités de mots qui n'ont aucun rapport entre eux. Oui, effectivement, je crois que c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce qui était en train d'arriver. Et moi, j'ai observé quelque chose, parce que je l'ai rencontré, raconté un peu quand François Gervais était venu, en 1987, nous étions en Suisse dans un hôtel, il y avait quelqu'un qui faisait partie de l'ONU, mais qui s'appelait Alexandre Novikov, qui était d'ailleurs un physicien, climatologue. Et ma mère avait toujours eu cette idée, l'homme détraque le climat. Alors d'abord, c'était les Spoutniks, et puis après, c'était les essais atomiques, je me souviens. L'homme détraque le climat, et moi, j'étais sceptique, et puis elle trouvait qu'il n'y avait pas assez d'écho à cette théorie. L'homme est nuisible, c'est un animal malfaisant, il détraque le climat, ça va mal finir. Et alors, Alexandre Novikov lui dit, mais oui, madame, vous avez absolument raison. Nous avons découvert, avec un nouvel organe qui est le GIEC, que, en effet, l'homme détraquait le climat, mais pas du tout pour les raisons que vous indiquez, c'est à cause de la production de gaz carbonique de nos industries. Et alors, ça va entraîner un réchauffement climatique absolument effroyable. Et c'est terrible parce que c'est l'apocalypse pour toute l'humanité. Et ma mère était ravie. Ah, alors, tu vois, j'avais raison quand je te disais que l'homme détraquait le climat. Enfin, lui-même, Novikov, il le dit. Et c'est en 1988-89 que cette thèse, dont on n'avait jamais entendu parler avant, est arrivée. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose comme une volonté politique derrière. Et je me souviens d'un autre anecdote. En 1989, quelqu'un m'a dit doctement, de toute manière, c'est très clair, les scientifiques sont unanimes, dans 30 ans, il n'y aura plus de neige dans les Alpes. Bon, ben là, on était allé au sport d'hiver, on était dans les Alpes, il y avait de la neige. Et ça faisait 36 ans. Donc, c'est-à-dire que brutalement, à partir du milieu des années 80, il y a un certain nombre, c'est ce que dit Christian Gérondeau, et ce que dit François Gervais aussi, un certain nombre d'hommes de politique ou d'organisations internationales qui ont dit la théorie du refroidissement climatique, ça marche pas du tout. D'ailleurs, ça se refroidit pas. C'était la grande théorie du Club de Rome, dans les années 70. Eh bien, on va changer notre fusil d'épaule, on va émettre la théorie du réchauffement climatique. Alors, comme la vapeur d'eau, comme vous l'avez dit, c'est pas qu'un gaz qu'on peut contrôler facilement, alors que c'est 60 fois plus réchauffant que le CO2, on a dit, ah, mais le CO2, c'est un candidat idéal parce qu'on peut le taxer, en plus. Donc, il y a quelque chose de politique derrière tout ça. Alors, je sais bien que c'est fatigant d'en entendre parler à longueur de journée, mais c'est pas de notre faute si nos adversaires en parlent tout le temps. Mais il y a derrière quelque chose, on va faire du complotisme. Il y a quelque chose de politique à la base derrière cet obscurantisme. Parce que le fait de répéter à l'envi tous les jours qu'il faut décarboner, ce qui n'a aucun sens, puisque nous sommes faits de carbone en plus, de décarboner, de faire croire que le CO2 est un polluant, ben c'est incroyable. Voilà, alors je laisse d'autres questions.
Alors, un auditeur nous dit, bonsoir, oui. Merci pour cette émission très intéressante. Ah. Pensez-vous que les essais nucléaires, les bombes atomiques depuis 1945, ont-ils pu influencer le climat?
Ont pu influencer le climat, je ne suis pas scientifique. Moi.
De manière microscopique, de toute façon, les essais nucléaires, on les a arrêtés. Avec comme conséquence qu'on n'est pas du tout certain que notre dissuasion nucléaire fonctionne encore, vu qu'on a perdu toute compétence sur ce domaine. Oui. Alors, on agite ça face aux Russes, qui, eux, ont environ 5500 têtes nucléaires, lesquelles fonctionnent. Et les nôtres, on n'en sait pas sûr, voilà. Alors, on aurait mieux. D'ailleurs, il est question de reprendre des essais. Hein. Les
Américains, j'ai vu ça, effectivement.
Oui. Non, l'impact sur le climat est négligeable. Mm-hmm. L'impact de l'activité humaine sur la planète, dans tous les sens du mot, est négligeable. Ouais. La planète ne s'est jamais aperçue que l'espèce humaine existait. C'est ce que dit Voltaire. Quand sa hôtesse envoie un vaisseau en Égypte, est-ce qu'elle se soucie de savoir si les souris qui sont dans la cale sont à leur aise ou non?
Mmh. Oui, mais en même temps, ça flatte l'ego de l'homme contemporain d'imaginer qu'effectivement, il a
ils
un...
Ils sont ravis de se prendre pour
une toute puissance.
C'est ce que je dis, c'est un pauvre type qui n'a pas réussi ses études, qui a mis ses parents à l'hospice et ses enfants au pensionnat, il va faire une croisade pour sauver la planète. Bon, ça le flatte. Ouais. Mmh.
Vous voyez ce que dit votre collègue glaciologue si... Mais nous pouvons prolonger, nous pouvons prolonger la vie sur Terre de quelques centaines à quelques milliers d'années si nous acceptons de nous priver de ce qui faisait le consort moderne.
L'ego.
C'est évident que c'est l'ego, bien sûr.
Un autre, donc une auditrice nous dit merci de votre émission. Fidèle auditrice de votre émission et de celle de Paul De Vels. Il a eu Jean-Marc Bonmatin sur l'apiculture, Alexandra Henrion-Côte sur les vaccins et plein d'autres encore, et effectivement sur le climat, mais pas que.
Oui, oui. Donc il a traité tous les aspects
de l'actualité
depuis plusieurs dizaines d'années.
Alors, un auditeur nous dit « Bonjour, le livre de M. Bozami est noté indisponible sur Amazon ».
Il
est ni à la FNAC ni Gibert, ce qui explique peut-être que vous n'en avez vendu aucun.
Non, il a commandé directement auprès de la société de calcul mathématique.
Alors c'est ce que j'ai fait d'ailleurs.
Alors oui, il faut le commander directement auprès de la société d'études et de conseil mathématique.
Société de calcul mathématique. Il suffit de taper ça et vous
Société
trouverez...
de calcul mathématique et vous pourrez le commander directement en ligne.
Si vous tapez Beaux Amis, vous trouverez aussi.
Il y a beaucoup de libraires qui refusent de distribuer des livres qu'ils estiment sulfureux.
Oui,
et ils l'ont dit, ils l'ont avoué et ils se sont même demandé comment on pourrait faire pour empêcher la vente de ces livres.
Si vous voulez un libraire attitré, on travaille beaucoup avec une grosse librairie qui s'appelle Deux Citres.
Oui, de Citre,
oui,
c'est connu.
Très connu. Enfin, cet auditeur remercie pour cette émission, toujours parfaitement animée.
Oui.
Et il remercie aussi l'invité et son style constant. Alors, un autre auditeur nous dit « Astronomie, théorie de l'évolution, accidents comme celui de Toulouse, énergie intermittente, réacteur à neutrons rapides, semences ». J'ajoute que les travaux des climato-réalistes portent leurs fruits. Le scepticisme progresse à grands pas, car les gens commencent à admettre que les politiques sont ignorants, peureux, court-termistes et mentent en réseau.
Ça, c'est tout.
Merci,
c'est
cher
pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que Donald Trump a été élu et que les républicains aux États-Unis ne croient pas du tout aux sottises sur le réchauffement climatique. Ouais. Donc, partir du moment où le parti dominant, l'État dominant, a changé d'avis là-dessus... Ça finira bien par venir en Europe. Ça prend quelques années pour se propager, mais la vraie raison, ce n'est pas la prise de conscience des gens ici, c'est le fait que ça, aux États-Unis, ça a changé complètement.
Voilà. Ce qui permet aux gens ici peut-être de prendre conscience.
Si, parce qu'il y a un effet d'entraînement.
Il faut qu'ils puissent suivre un leader, un chef, un puissant.
Il y a une unanimité. Maintenant, ils ne peuvent plus dire qu'il y a une unanimité,
il y avait la théorie du consensus.
Plus un grand nombre de pays qui se sont retirés des accords de Paris, etc.
Alors, il nous reste quelques minutes.
Oui, il faut terminer
plusieurs auditeurs. Alors, on a plusieurs messages. Sur quelles données pouvait-on affirmer que le pôle Nord était libre de glace en 1812 ? Les échecs des tentatives successives de la recherche du passage du Nord-Ouest avec des bateaux pris dans les glaces ne sont pas en faveur de cette thèse.
Bah, on peut imaginer...
carottage, peut-être,
dites à cet auditeur qu'il achète le livre de Roger Vercel.
Roger Vercel.
Roger Vercel, V-E-R-C-E-L, à l'assaut des pôles.
À l'assaut des pôles.
C'est paru dans les livres de poche.
Voilà, en livre de poche.
Il achète le bouquin, il le lit, c'est facile à lire, c'est tout à fait passionnant.
Il aura la réponse à ses questions.
Il aura la réponse, après il peut se documenter, regarder.
Alors, ça pouvait être un passage occasionnel, parce qu'il y a eu un été particulièrement chaud.
C'est ça, il y a eu une époque particulièrement chaude, et il dit qu'il y a des icebergs qui dérivaient dans l'Atlantique, au niveau de Naples.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est là que le Titanic en a rencontré.
Peut-être, oui. Les icebergs avaient foutu le camp du pôle, et ils dérivaient dans l'Atlantique.
Voilà.
Un autre auditeur nous dit un article de vulgarisation promettait une épidémie de cancer de la plèvre et du péritoine liée aux particules dans le métro dans les années 70.
Oui.
Apparemment, il est plus dangereux de consommer des pansements gastriques, bien que le risque soit tout de même faible.
Bon, ça c'est une question médicale, mais il y avait aussi, on avait dit qu'après Tchernobyl, et surtout pour ceux comme nous qui avaient mangé des champignons à profusion, que nous avions signé notre arrêt de mort, je me souviens. Parce que moi, j'avais consommé des cèpes au printemps 1986, pas au printemps, pardon, à l'automne 86, et notamment en Suisse. Alors là, vous avez signé votre arrêt de mort. Dans 20 ans, vous serez dans votre tombe. Eh ben, je suis toujours là. Et voilà. Et donc, on m'a mis ça, alors le cancer de la thyroïde. Hein. Alors là, vous y couperez pas. Hein. Ah oui, bah non.
On a beaucoup travaillé sur ces questions pour le compte d'un organisme qui s'appelait l'IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ça a fusionné récemment avec l'autorité de sûreté nucléaire. Et j'avais un ami qui s'appelait André Orengo, qui était professeur de médecine nucléaire. Et il avait été pris à partie parce qu'il avait publié, il était membre de l'Académie de médecine aussi, il avait publié des articles en disant « La catastrophe de Tchernobyl n'a eu aucune répercussion mesurable en France. Mm-hmm. » Rien. Mm-hmm. Voilà. Alors on l'a dit « Ah oui, c'est un scandale, on a prétendu que ça s'était arrêté à la frontière, etc. Oui. » C'est pas vrai. Simplement, ça avait décru de telle manière que... En ce qui concernait l'exposition du territoire français, c'était en dessous de la radioactivité ordinaire.
Les
gens n'ont pas accepté, n'ont pas compris qu'il existait une radioactivité ambiante.
Notamment en Bretagne. C'est bien connu. Alors écoutez, en tout cas, cette émission arrive en son terme. Je vous remercie, chers collègues, d'être venus et d'avoir animé cette émission avec votre talent habituel.
Merci.
Et malheureusement, on n'a pas pu aborder tous les sujets qui vous auraient passionné, mais je compte sur vous.
Mais on a pu aborder ceux qui vous intéressaient.
De Havel, c'était une de vos suggestions, vous le rappelle. Et on a quand même rendu un hommage au professeur de Havel.
On a fait ça.
On a quand même fait quelque chose. On a au moins fait quelque chose de bien. Voilà, on est au moins d'accord là-dessus.
Tu vous seras pardonné à cause de ça.
Merci. Et dans un mois, nous vous retrouvons le 31 mars et le 1er avril. On parlera peut-être d'ailleurs de la pêche le 1er avril.
Bonne chance.
Bonsoir.
Bonsoir, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal du droit et des libertés dirigé par Olivier Tournafond, assisté de Bérénice Tournafond, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 4 mars 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.